Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. J'ai le plaisir de partager avec vous mon échange avec maître Maxime Cléry-Melin. Maxime est avocat au barreau de Paris depuis 2013 et exerce en qualité de collaborateur chez Auguste Debouzy dans l'équipe contentieux, arbitrage, droit pénal des affaires, tout en étant engagé en droit des étrangers. Alors j'ai un peu honte car j'ai terminé l'entretien sur un joli souhait de Maxime en oubliant de lui demander les trois petites questions de fin habituelles, à savoir une source d'inspiration actuelle, sa dernière joie et ce qu'il porte sous sa robe. Maxime a quand même accepté de me répondre par écrit et je vous donne rendez-vous en story du compte Instagram de Fleurs d'Avocat pour cette touche finale. Je voudrais aussi encourager les jeunes collaborateurs qui écoutent Fleurs d'Avocat à écouter le podcast Vocation Avocat, produit par maître Flore Poloni qui est counsel chez Auguste Debouzy. Il est souvent reproché aux avocats de ne pas savoir manager et j'aime l'idée de ce podcast que je vois comme un pont entre les avocats expérimentés et ceux qui débutent. Une occasion de mieux expliquer aux jeunes ce qui est attendu d'eux, une sorte de dialogue qui est finalement ce qui manque beaucoup en cabinet d'avocats au niveau du management. Bien sûr, ces conseils ne sont pas universels et en l'occurrence ils sont très typés cabinet droit des affaires de grande taille, car c'est dans ce type de structure que Flore exerce. Gardez donc en tête que chaque cabinet, chaque manager est différent, mais cela dit, je salue l'initiative et je suis certaine que nombreux sont les jeunes qui y trouveront des clés. Merci enfin à Thibault Labbé, mon invité de l'épisode 10 de Fleurs d'Avocat, de m'avoir mise en relation avec Maxime. Enfin, n'oubliez pas de laisser un avis et des étoiles sur iTunes ou l'application que vous utilisez. Merci beaucoup par exemple à Karma Béa que le podcast aide à aiguiser sa vision du fonctionnement de la galaxie des avocats. Je n'en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime Cléry-Melin.
Bonjour Lila.
Merci d'être mon invité sur Fleurs d'Avocat.
Merci de m'avoir invité.
Alors Maxime, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat.
Alors je suis devenu avocat à 27 ans, ce qui est un peu plus tard que la moyenne des avocats, après une école de commerce. J'ai fait une école de commerce et j'ai découvert le droit sur le tard. Ça a été un vrai coup de foudre qui a fait qu'en quelques mois, j'ai décidé de totalement changer de bord et d'abandonner les métiers l'idée très internationale que je me faisais de ma carrière pour découvrir, pour creuser en fait la pratique et l'apprentissage du droit, d'abord à distance, puis en fac et puis en école d'avocat.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors déjà plusieurs choses dans tout ce que tu veux dire. Toi, tu as commencé une école de commerce parce que tu envisageais une carrière en grosse boîte à l'international.
Bah, j'ai fait cursus prépa école de commerce parce que l'idée d'aller partir à l'étranger, vivre loin, vivre dans des endroits assez exotiques et pouvoir travailler dans des grandes boîtes me plaisait bien. Assez vite en école de commerce, en fait, le virus de l'international m'a vite pris et je me suis mis en fait à apprendre le chinois dès le premier jour de la première année d'école de commerce. Et quelques mois plus tard, on m'a proposé un échange à Shanghai. Je suis parti pendant 2 ans à Shanghai, en fait. Donc, mon école de commerce, beaucoup, encore aujourd'hui, se résume beaucoup à cette étape très importante pour moi à Shanghai.
Qu'est-ce que tu as découvert d'important pour toi à Shanghai ?
J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert que je pouvais m'adapter, que je pouvais vivre loin de mes bases, ce qui était quelque chose que j'avais envie de tester, de mesurer, après avoir vécu à Paris toute mon enfance et ma jeunesse. Et j'ai découvert des amitiés très fortes. Mes copains très proches aujourd'hui sont de la bande de Shanghaïens. J'ai découvert aussi les différences, l'altérité. Enfin, j'ai découvert le fait que des gens à l'autre bout du globe pensent, vivent différemment. Et donc j'ai découvert tout ça et ça a été hyper enrichissant et hyper stimulant et en fait très rassurant parce qu'en fait quand je revenais à Paris j'avais le sentiment d'avoir un peu parcouru le globe et d'être armé en fait d'une sorte de sagesse, de compréhension un peu plus, donc j'étais rentré un peu plus sage, un peu plus câblé que je ne l'étais avant de partir.
Dans quelles conditions est-ce que tu as eu ton coup de foudre pour le droit ?
C'est en rentrant après cette deuxième année à Shanghai et c'est une année de césure ensuite de stage à Shanghai en finance, donc rien à voir avec le droit, qu'un copain, reprenant mes cours de troisième année à Paris, un copain me disait « Inscris-toi en droit, tu verras, c'est chouette, c'est plutôt intéressant. » Et puis ça fait une année de plus sur le CV, ça fait jamais de mal. En parallèle de ma troisième année, qui s'annonçait pas très réjouissante, avec beaucoup de cours de rattrapage, un peu barbant. Le principe des écoles de commerce, c'est qu'on n'a quand même pas des cours foncièrement à la base passionnant. C'est vraiment le trésor des écoles, c'est vraiment de pouvoir partir facilement à l'étranger, ça c'est vraiment un vrai plus. Et donc ce copain m'a dit, inscris-toi en droit, tu verras, c'est passionnant. Comme j'avais un peu le même goût que lui, je m'étais rendu compte qu'on aimait beaucoup les mêmes choses. Je me suis lancé, donc je me suis inscrit au CAVEJ, l'enseignement à distance de droit à Paris. Et je me suis cogné les polis de droit administratif, de droit du travail, enfin, des choses extrêmement variées. C'était l'équivalent de la L3 à laquelle j'avais accès directement. Et là, tout de suite, mais dès les premières pages des polis, ça a été le virus du droit m'a saisi, quoi. J'ai trouvé ça passionnant, je me passionnais pour le droit administratif, savoir où s'arrêtait le domaine public, les relations employeur-employé. Enfin, il n'y avait pas une branche du droit qui m'intéressait pas. Je me jetais sur les polis de droit bancaire avec beaucoup d'appétit. Et en fait, j'avais le sentiment d'avoir accès à une matière passionnante pour laquelle vraiment j'avais un intérêt extrêmement fort, bien plus fort que tout ce qu'on m'enseignait en école de commerce. Donc c'était très, très violent même, en fait. Comme coup de foudre, et puis j'avais surtout enfin le sentiment de comprendre un peu les fils invisibles qui relient la société, les institutions, les individus entre eux, d'y voir clair, quoi. Et donc j'ai avancé là-dessus, j'ai eu des vents contraires parce que en même temps j'avais 24 ans, j'avais quand même très envie de me lancer en vie active, j'en pouvais plus de m'être cogné toutes ces années d'études, ça commençait à me paraître, enfin les années me paraissaient très très longues, et malgré ça. Il m'a fallu quelques mois, j'ai fait ce licence 3 en parallèle de ma troisième année d'école. J'ai ensuite fait des stages pour faire mon master 1 toujours en parallèle. Et pendant mon master 1 en parallèle de stage, après mon école de commerce...
Donc c'était des stages juridiques ou pas du tout ?
Non, c'était des stages en fonds d'investissement. Voilà, je capitalisais là-dessus parce que naturellement, mon CV se résumait plutôt à ça. Et ça me permettait de pouvoir vivre correctement, gagner de l'argent, et tout en continuant ces cours à distance et ces fameux polis que je continuais à dévorer avec beaucoup, beaucoup d'appétit. Et c'est au milieu de cette année, donc il m'a fallu un an et demi pour me dire réellement, allez, je me colle 3 ans en plus. Je sais que sur la longueur d'une vie et d'une carrière, ça sera finalement pas grand-chose. Et même si tous mes copains commencent à travailler à 24-25 ans, moi je serai... On collera l'étiquette de l'éternel étudiant, mais dans le fond, après tout, dans quelques années, ça sera oublié et je vivrai et je ferai un métier qui me passionne, comme je m'en doutais à l'époque.
Et alors, quand est-ce que tu as fait tes premiers stages en droit ?
J'ai fait mes premiers stages en droit, je pense que c'était... Tu as raison, c'était pendant un master 1. Pendant mon master 1, j'ai fait effectivement 4 mois de stage dans un cabinet américain en M&A, parce que naturellement, ayant quelques stages à mon actif en finance, j'étais directement employable dans ce genre de structure et ce genre de droit. Donc c'est plutôt un M&A que j'ai employé. Et assez vite, je me suis rendu compte que... Alors, j'ai trouvé ça passionnant, mais j'avais quand même très envie d'aller découvrir le judiciaire, et découvrir la vie de palais, découvrir l'avocat plaidant. Ça s'est vite imposé à moi. Pouvoir être généraliste.
Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ?
Ce qui m'attirait...
Parce que tu venais vraiment du monde business, comme tu viens de le dire, donc...
Ce qui m'attirait, c'était tout d'abord, je pense, l'exercice d'écriture, l'oralité également, le fait de pouvoir mener des dossiers assez généralistes, en fait. Ce qui me plaisait, ce qui m'attirait dans le judiciaire, c'était vraiment de pouvoir faire du civil, du commercial, du pénal, de pouvoir changer de casquette, et de pouvoir... être utilisé par ses clients comme portant le fer à droite à gauche sur des combats à la fois privés, généraux, et être cet outil qui rédige et qui plaide les combats de ses clients. Ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien et qui me permettait également de maintenir cette casquette de généraliste et de pouvoir toucher à des dossiers divers et variés, que ce soit de l'IMO, du contentieux d'acquisition, du pénal... ou du droit des étrangers, ce genre de choses.
Et alors, comment est-ce que tu l'as exploré, cette voie plus privatiste ?
J'ai fait un master 2, ensuite, en droit des contrats, droit des biens, donc droit privé, à la Sorbonne. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit à l'époque, j'avais pas beaucoup d'infos, de fait, hein, parce que j'étais un peu tout seul dans mon coin, il y avait pas beaucoup, on n'était pas nombreux en école de commerce à faire des études de droit, on communiquait assez peu entre nous, alors c'était un peu le système les uns copiaient des polis, se refilaient les fiches, mais on avait le sentiment un petit peu, et les écoles nous soutenaient relativement peu. Et donc on se refile des fiches, les bons tuyaux, on essayait d'y voir un peu clair dans le monde de la fac qu'on connaissait pas du tout. Et assez vite, à la fois dans la structure américaine, le cabinet américain que j'avais rejoint pour un stage, et puis d'autres, des anciens élèves, des étudiants en droit, me disaient que ça serait bien d'avoir un vernis un peu plus privatiste et d'être passé sur les bancs de la fac. Donc j'ai encore prolongé un peu plus en faisant un Master 2 en présentiel. Ce qui, ça, a été une découverte pour moi, parce que j'ai eu la chance, et j'en ai la chance aujourd'hui, d'avoir connu à la fois le monde de la fac et le monde d'école de commerce, qui sont souvent deux mondes qui s'ignorent pas mal, avec pas mal d'a priori, de préjugés les uns sur les autres. Donc je suis ce pont entre la fac et l'école de commerce. Et donc voilà, donc on m'a conseillé de faire une année en plus de droit privé pour pouvoir légitimement aller faire du contentieux et sans qu'on me dise « t'as eu tes diplômes de droit dans une pochette surprise après ton école de commerce ». Ce qui était un peu ce que les gens disaient à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, ça se disait, donc du coup, mais ça a été top. Hein. J'avoue que ça a été à nouveau une petite secousse, parce que mon premier jour sur les bancs de la fac, je m'en rappelle très bien. Déjà, les étudiants de M2 me regardaient, on était une quinzaine, hein, ils me regardaient avec des yeux gros comme des soucoupes en se disant, c'est qui ce type qui revient de 2 ans de Chine ? Ça paraissait quand même très très loin de la place du Panthéon. Et puis clairement, le premier cours, c'était un cours de libéralité en droit romain. Et ça me changeait du coup beaucoup de mes cours de finance, puisque le leg en droit romain, c'était quelque chose qui me paraissait éval. À ce moment-là, au milieu du cours, je me rappelle très bien, j'étais au premier rang, parce que j'étais arrivé un peu en retard, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est quand même, est-ce que j'ai pas fait une erreur en allant dans une branche qui est quand même un peu éloignée de ce que mes copains, mes connaissances ont fait, etc. Ensuite, naturellement, les autres cours, droit des contrats, droit des biens, j'ai pu raccrocher un peu les wagons. Mais
c'est là que tu as vraiment découvert, en fait, ce que c'est que la fac.
Ouais, complètement, ouais. Complètement. Ouais.
Et donc, dans le cadre de ce Master 2, tu as fait un stage en judiciaire, du coup ?
Non, j'ai pas fait de stage en judiciaire à ce moment-là. J'ai pas fait de stage en judiciaire. J'ai fait mes stages, je les ai uniquement fait en école d'avocat, à l'EFB, après, où j'ai commencé par faire un PPI en Chine. J'ai renoué avec mes amours chinoises, en retournant 6 mois en Chine pour mon PPI, dans un cabinet de conseil M&A. L'intérêt pour moi, c'était vraiment de retourner là-bas. Et en plus, j'avais quand même j'étais encore au milieu de mes vents contraires. Si tu veux, j'avais quand même très envie. J'avais cette envie, en quittant l'école de commerce, de partir en Chine, monter une boîte. Quelques copains l'ont fait. J'avais vraiment ce désir entrepreneurial en Chine. Et en même temps, je savais pas quoi faire de cet amour inconditionnel pour le droit qui m'était tombé dessus sans que j'y prenne garde. Et je me suis dit, bon, bah, pour lever l'ambiguïté, il faut que j'aille tester la compatibilité entre les deux, 6 mois en Chine. Donc je suis parti pour mon PPI 6 mois en Chine. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas un très bon choix pour moi. Parce que, en fait, il n'y avait pas de judiciaire. Parce qu'on ne fait que du conseil. C'est les avocats chinois là-bas qui font le judiciaire, et le judiciaire, c'est pas un judiciaire comme on connaît aujourd'hui, il y a beaucoup plus de relationnel, on va dire, entre...
De médiation.
De médiation, et puis de relations un peu plus personnelles entre avocats, juges, enfin bref, c'est pas un pays connu pour sa neutralité devant les tribunaux, et finalement, donc, d'un point de vue juridique, je retrouvais pas ce que j'avais envie de faire. Et d'un point de vue Chine, je me rendais compte que c'était... en fait, j'étais pas dans la vie la plus grisante. La vie grisante à Shanghai, c'est de monter sa boîte. Enfin, tous les soirs, on rencontrait des gens mexicains, allemands, américains...
Et qui toi, venaient monter une boîte.
Ça m'aurait impliqué de renoncer au droit. Donc en fait, j'avais les désavantages des deux. J'étais avocat, enfin j'étais bébé, j'étais stagiaire avocat à Shanghai, mais j'avais pas la vie trépidante d'un entrepreneur en Chine. Et j'avais pas la vie trépidante d'un avocat de palais à laquelle j'ambitionnais.
Et donc, entre rester en Chine...
J'ai dû faire un choix. Le choix, c'est un renoncement. Et j'ai renoncé à la Chine, mais au moins en connaissance de cause. En me disant, en fait, ce qui me plaît vraiment pendant les prochaines années, c'est d'apprendre à être avocat. Et il vaut mieux le faire en France, quoi. Ouais. Donc, je suis rentré. J'ai suivi l'école du barreau. Et après ça, j'ai fait mon stage final... dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui,
Auguste de Bouzy.
Ouais, exactement.
Et comment ça s'est passé, du coup, ce stage final ?
Ça s'est bien passé. J'avais pas beaucoup, du coup, si tu as suivi, j'avais pas beaucoup d'expérience en groupe contentieux. J'avais fait essentiellement des stages en M&A, j'avais fait un stage à l'étranger qui valait pas grand-chose en termes de pratique du droit et de pratique contentieuse. Donc j'avais beaucoup de choses à me prouver à moi-même. Et je m'étais mis en tête, simplement... donner le meilleur de moi-même et d'essayer de prouver aux gens pour qui je travaillais que, qu'au bout de 3-4 mois, je pouvais être regardé comme un collaborateur moins, on va dire, un collaborateur en puissance. Et je crois qu'ils l'ont vu, parce qu'ils m'ont proposé de rester à l'issue de mon stage final. Et j'avais eu des échos de ce cabinet par une copine qui y était elle-même collaboratrice. Donc elle m'en avait vanté les mérites. Et c'est vrai que j'ai découvert pendant mon stage un cabinet qui correspondait vraiment à mes aspirations, qui me permettait de...
Quels étaient les mérites qu'elle t'avait vantés, justement ?
Elle m'avait vanté les mérites d'un cabinet français, du coup pas nécessairement... on n'est pas nécessairement voilà, la branche d'un cabinet global, mais un cabinet français et puis présent dans la cité. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelques anciens politiques, il y avait une volonté d'être présent près de l'ordre des avocats, une volonté d'incarner un cabinet français. C'est quelque chose qui me parlait. Je me disais que c'était une belle maison afin d'apprendre à être un avocat parisien. Et elle m'en vantait également les mérites en me disant que... Et je le voyais, hein, parce qu'on se voyait assez souvent, que l'équilibre rythme de vie, rythme professionnel était tout à fait dans ce que j'imaginais être mon équilibre à moi. Et puis elle avait accès à une variété de dossiers qui me faisaient rêver. Elle faisait du pénal, du commercial, du civil. Parfois elle donnait un coup de main sur l'immobilier. Enfin, il y avait toute cette palette qui, moi, me tenait beaucoup à cœur.
Ouais. Et quand tu dis qu'elle te présentait un cabinet qui, en termes d'équilibre vie privée, vie pro, correspondait à ce que tu imaginais, qu'est-ce que tu imaginais justement ?
J'imaginais un cabinet où, tout simplement, une journée extrêmement active, finissant pas mal de mes copains, même après école de commerce, hein, travaillaient dans des rythmes assez importants, finissaient le soir vers 8h, 9h, 10h. Je me disais que mes premières années de collaboration, j'étais prêt à donner un petit coup de collier pour apprendre le métier de manière express, tout en ménageant. Enfin, l'idée, c'était pas d'y passer mes nuits, l'idée, c'était pas d'y passer mes week-ends. Et ça avait l'air de correspondre à ce qu'elle vivait. Donc, et c'est ce que j'ai découvert là-bas en tant que stagiaire, puis en tant que collaborateur. Donc,
Et alors, ces débuts de collaborateur, en combien de temps est-ce que... t'estimes avoir passé ce gap qui était important pour toi de prouver à toi-même que t'étais plus le mec qui sort d'école de commerce et qui est un apprenti juriste où tu t'es senti vraiment juriste en plein pouvoir, enfin, entre guillemets quoi.
Il y a eu plusieurs étapes. La première étape, le fait de me sentir juriste, ou en tout cas pas moins légitime que les autres, assez vite, parce que dans le fond, j'ai bien vu que pendant mon stage... J'étais apprécié, les collaborateurs, les associés faisaient appel à moi pour gérer leurs dossiers, même en solo, donc ce qui était comme hyper gratifiant en tant que stagiaire. Donc assez vite, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas à rougir d'avoir séché L1 et L2, qui était la petite musique qu'on me donnait avant, qui avait expliqué notamment pourquoi je m'étais cogné un M2 en plus en droit privé. Ce qui était un plaisir par ailleurs. Donc ça, assez vite, je me suis senti, si tu veux, sur la même ligne de départ que les autres. Ensuite, le métier de collaborateur, je pense que je l'ai appris, il m'a fallu une année, je pense, pour comprendre ce que ça exigeait en termes de responsabilité et en termes de comprendre la fine alchimie entre les associés d'un cabinet... d'un cabinet d'affaires et les collaborateurs. Ce qui est attendu d'eux, à la fois la liberté... la responsabilité des dossiers et en fait l'assurance dont ils ont besoin. J'ai mis un peu de temps à apprendre à donner des gages d'assurance. Je gérais les dossiers, il n'y avait pas trop dans la raquette, je faisais mon boulot, je le faisais consciencieusement, je le faisais bien, je crois, en tout cas suffisamment bien pour pas être jeté par la porte. Mais je le faisais, je crois que j'ai mis un peu de temps à comprendre que quand on gère 50-60 dossiers et qu'on est associé d'un cabinet d'affaires, il faut avoir une équipe qui également fait monter de l'information sur l'assurance que les dossiers sont suivis. Donc cette communication sur les dossiers, pas simplement la production, mais la communication sur la production, j'ai mis un peu de temps à l'intégrer. Donc il m'a fallu, je pense, 6 mois, 1 an, avant de trouver le rythme de croisière.
T'as eu des petits déclics, des moments qui ont un peu marqué un cap dans cet apprentissage de cette communication, justement ?
J'ai eu... des entretiens avec mes boss, ouais. qui m'ont fait comprendre que j'avais pas encore tout à fait compris ce que ça impliquait. Donc j'ai eu cette montée progressive. Je pensais, en fait, on commence en collaboration, on sort de stage final dans la même équipe, on pense qu'on est un peu le roi du pétrole et qu'on a pigé comment ça fonctionnait. En fait, on a encore beaucoup, beaucoup de choses, à apprendre la première année, deuxième année, où en fait, on déchiffre l'alchimie très subtile qui régit un cabinet. Je pense que ça vaut également pour les cabinets de taille moyenne et de petite taille.
Parce on que c'est des choses. On est vraiment dans la mécanique des relations, en fait, de l'organisation.
Et ça, je suis capable aujourd'hui de le verbaliser beaucoup plus clairement. Parce que je pense que le management, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à apprécier en cabinet, quelle que soit la taille des cabinets. Des avocats, de manière générale, c'est un exercice assez individuel, qu'on soit collaborateur ou associé. Il y en a un ou deux ou trois maximum qui bossent, qui produisent, qui écrivent, qui rédigent et qui plaident. C'est un exercice assez solitaire. Et quand on compare avec... quand je compare avec tous mes copains qui travaillent en équipe, qui aujourd'hui dirigent des équipes de 10, 15, 20 personnes, jamais, moi, si je continue ma carrière d'avocat, je ne serai en mesure de gérer. Ça me va très bien, je suis très content là où je suis aujourd'hui. Mais on se pose beaucoup moins de questions de management. On est souvent à la tête dans le guidon. On est tenu rennes serrées par nos clients, par les associés. Il faut sans cesse délivrer. On a sans cesse un dossier qui est sur le feu. Donc on ne prend pas vraiment le recul et on a du mal à voir comment les choses se structurent. Et ça, c'est quelque chose probablement que tout jeune collaborateur... qui du coup quitte effectivement son rôle de stagiaire et devient collaborateur, devrait comprendre, on devrait lui apprendre à déchiffrer assez vite, je pense que chaque cabinet est différent, mais à déchiffrer assez vite comment est-ce que les liens se font, qu'est-ce qui est attendu.
Ça impliquerait que les cabinets soient eux-mêmes conscients de cette mécanique et de cette organisation.
Je suis assez persuadé que finalement, peu d'associés dans des grands cabinets sont suffisamment conscients de ces liens qui sont tissés entre les uns et les autres et du fait que les gens ne le savent pas spontanément.
Et toi, est-ce que... Parce que du coup, ce qui est intéressant dans le fait que tu aies fait une école de commerce et pas juste un master en école de commerce, mais vraiment une école de commerce depuis le début, est-ce que c'est quelque chose que t'as suivi en école de commerce et du coup qui t'a permis d'avoir ce regard assez rapidement par rapport à ton exercice en cabinet d'avocat ?
Alors, je ne sais pas si je l'ai lu rapidement, parce qu'il m'a fallu ces petits déclics pour finalement le comprendre.
Enfin, si c'est déclic, c'est un an, je trouve que ça va, c'est plutôt rapide.
Oui, mais par rapport à... je continue aujourd'hui à apprendre encore des choses.
Oui.
Non, mais c'est difficile de prendre du recul par rapport à soi-même, donc je suis incapable de te dire si c'est mon passage en école de commerce qui m'a rendu extra lucide là-dessus ou pas. Non, c'est vrai que en école, quel que soit le cours, on apprend à travailler en groupe, on a des projets en commun, et en fait, la vraie plus-value des écoles de commerce, et j'avais lu une étude d'un sociologue passionnante là-dessus il y a quelques années, c'est les associations dans lesquelles on se lance. Il n'y a pas une école qui n'a pas une cinquantaine, une soixantaine d'associations, et c'est là, en fait, on apprend les liens, on apprend le management, on apprend à gérer des équipes, on apprend à motiver, on apprend... à faire preuve d'autorité quand les uns ou les autres, finalement,
c'est manifestent un engagement. C'est l'apprentissage sur le tas, quoi.
Complètement. Mais je ne me rappelle plus exactement ni du nom de ce sociologue, ni de l'intitulé de son étude, mais son thème phare, c'était la déscolarisation en école de commerce. En fait, après X années de prépa, etc., ou alors de cursus parallèle, où on a été...
On a appris à la tête des têtes
bien faites. En fait... l'école de commerce vient déscolariser, vient mettre en pratique et vient apprendre à une jeune classe d'âge à gérer ses rapports de management.
Et donc toi, pour en revenir à ton regard là-dessus, une fois avocat, tu dis que tu as ce regard extrasensible qui a évolué et que tu décryptes toujours aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça, de justement ce regard, comment il s'est formé et...
Comment il s'est formé, comment mon regard s'est
Parce
formé
Parce que tu as expliqué que tu as eu cette première prise de conscience, donc au bout de la première année, que tu avais compris plus cette notion de comment est-ce que je communique ce que je fais dans les dossiers pour donner de l'assurance, en fait. Mais tu as aussi expliqué que globalement, cette conscience de l'organisation, du management, c'est quelque chose que tu n'avais pas bouclé au bout d'un an, quoi, que tu as construit au fur et à mesure de ta pratique. Est-ce que, pareil, est-ce que tu as un peu des moments clés où tu as pris conscience de certaines choses ou pas, enfin...
Alors, le déclic d'après, je vais répondre à ta question. Le déclic d'après, en fait, c'est que j'ai réalisé que je pouvais avoir confiance en moi parce que j'avais la confiance de mes boss, j'avais la confiance visiblement des clients également de mes boss pour qui je travaillais de manière de plus en plus directe. Et donc ça m'a appris déjà à être... Enfin, j'ai réalisé que je pouvais être plutôt bon avocat. Enfin, je pouvais gérer des dossiers. Donc ça a été le troisième déclic, en quelque sorte. Ensuite, sur le management, ça a été peut-être un déclic encore un peu ultérieur, où je réalise encore aujourd'hui, en fait, la manière dont... la génération qui est venue après moi, parce que là chez Auguste ça fait maintenant presque 6 ans si j'inclus mon stage final, il y a eu d'autres générations d'avocats, de stagiaires d'avocats qui sont venus et qui passent un peu par les mêmes étapes par lesquelles moi-même je suis passé, à chercher de comprendre la manière dont les rapports entre les associés et les collaborateurs se font, et à la fois moi dans la manière dont j'apprends à encore aujourd'hui, hein, clairement aujourd'hui, à déléguer des dossiers, à pouvoir piloter un groupe, à piloter des collaborateurs plus juniors et leur apprendre en fait à mettre le pied à l'étrier et avoir même confiance en eux dans ce qu'ils écrivent et dans ce qu'ils plaident. J'ai appris, tu vois, en quelque sorte à éclairer un peu leur chemin. Et c'est ce rôle un peu entre deux eaux que je découvre aujourd'hui et que je m'approprie.
Et ça te plaît ?
Beaucoup, ouais.
Et t'es soutenu par Auguste ? Est-ce que vous êtes formé par Auguste ? Je sais pas, est-ce que Auguste a mis en place des formations à ce sujet ?
Non, il n'y a pas de formation là-dessus, c'est très empirique.
C'est très empirique.
Mais après tout, je te décris un chemin que bien d'autres ont pris avant moi, donc je crois qu'il
n'y
a pas du tout de...
Ah mais c'est pas critique, c'est une question vraiment de curiosité pure, ouais.
Mais non, il n'y a pas de formation, ce que je construis aujourd'hui c'est très empirique, et je pense que simplement, et il n'y a pas de formation particulière, simplement il y a une alchimie qui se crée entre associés, collaborateurs... De différents âges, de différentes expériences, et qu'on apprend sur le tas, tout simplement.
Comment est-ce que tu as grandi ? Qu'est-ce que tu voulais développer, toi, en tant qu'avocat ?
Ce que je voulais développer en tant qu'avocat, c'est, à nouveau, c'est quelque chose de très généraliste. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir proposer à toute une clientèle différente, à la fois des techniques judiciaires, pénales, commerciales, civiles, de pouvoir être un peu leur couteau suisse face aux aléas judiciaires et juridiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça me plaît beaucoup. J'aime bien ce rôle d'être vraiment cette boîte à outils que les clients peuvent utiliser. Ensuite, pour revenir un peu en arrière, une fois que j'ai réalisé que j'étais capable de pouvoir répondre à des besoins de clients, quelle que soit leur demande, et que je pouvais de moi-même répondre à leurs besoins, j'ai découvert également la possibilité d'étendre un peu mon champ de compétences. Et en 2015, ça faisait 2 ans que j'étais avocat, je me suis dit que j'avais envie, maintenant que je m'étais prouvé que je pouvais gérer des dossiers, répondre aux attentes de clients, j'avais envie également d'apporter une voix, plus d'intérêt général. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé également à m'intéresser aux droits des étrangers. Et c'est une pratique qui était très éloignée de ce que je faisais jusqu'à présent, qui n'était pas forcément que je développais en parallèle de ce que je faisais chez Auguste, de ce que je fais chez Auguste Debouzy, et qui permettait également de répondre à une aspiration profonde, qui était de pouvoir être avocat également dans la cité et répondre à des enjeux de société.
Et pourquoi le droit des étrangers, plus particulièrement ?
Parce que le déclic a eu lieu en 2015, je pense qu'un déclic qui a interpellé beaucoup de gens, c'est ce qu'on a appelé la crise des migrants, entre guillemets. L'été 2015, j'étais en croisière avec quelques copains en Grèce, et effectivement, on a été de fait directement confrontés avec des bateaux de Syriens, d'Afghans et d'Irakiens qui arrivaient sur les côtes grecques de manière massive. Et voilà, en rentrant septembre 2015, je me suis dit, Maxime, ça fait 2 ans et demi que tu es avocat, tu es encore en train d'apprendre le métier, mais tu as déjà appris la base. Maintenant, il s'agit également d'investir ce métier comme tu l'as senti depuis le début, c'est-à-dire en te consacrant aussi dans des combats un peu plus généraux que des combats particuliers dans lesquels j'exerce mon métier au quotidien. Et donc, je me suis rapproché de diverses associations d'aide aux migrants. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé également cette branche du droit sur le droit des étrangers.
Et alors ?
Et alors, depuis, Depuis, j'aide une association qui s'appelle le Service Jésuite des Réfugiés, JRS, qui œuvre depuis de nombreuses années dans beaucoup de pays du monde et qui apporte beaucoup de solutions aux migrants. D'abord, qui leur propose des hébergements et qui également regroupe un certain nombre de juristes et d'avocats dont l'objectif est non seulement d'accompagner les demandes individuelles des migrants, réfugiés, donc devant la CNDA, devant l'OFPRA, mais également de tâcher de lancer des procédures judiciaires devant les tribunaux administratifs, Conseil d'État, afin de transformer le droit, transformer la loi, de mettre même en œuvre les directives européennes qui ne sont pas appliquées par la France. Et donc voilà, donc ça c'est assez grisant aussi.
Et comment est-ce qu'une pratique nourrit l'autre ?
Comment est-ce qu'une pratique nourrit l'autre ?
Ouais.
Alors déjà en termes de compétences, puisque les compétences que j'acquiers, que je continue à acquérir dans mon activité principale me permet d'essayer d'apporter le meilleur de moi-même dans cette pratique accessoire qui est le droit des étrangers. Et elle nourrit l'autre de manière aussi plus large, dans une sorte d'équilibre. En fait, cette profession d'avocat, on a parlé effectivement de mon cursus, de la manière dont j'ai accès à la profession. Très vite, ce qui m'a plu dans cette profession d'avocat, c'est aussi cette capacité à pouvoir être une voix, pouvoir porter des combats. Et du coup, c'est un équilibre assez indissociable pour moi. Je trouve que les combats individuels que je mène pour des clients, entreprises, personnes physiques, a son pendant dans voilà, la transformation qu'on essaie d'impulser avec ces associations auxquelles j'apporte un soutien. C'est vraiment un équilibre personnel qui me convient, qui aujourd'hui a cette double facette qui aujourd'hui me convient bien. Ouais.
Et comment est-ce que Auguste et Debouzy accueille cette deuxième activité que tu as ?
Il l'accueille avec à bras ouverts. Il y a 2 ans, ils m'ont permis de pouvoir partir 5 semaines d'affilée dans un camp de réfugiés en Grèce, ce qui était assez inédit. J'avais déjà un peu renié mon quota de vacances et ils m'ont permis naturellement, sans aucune hésitation et avec beaucoup d'intérêt dans ce que je développais. Et ils m'ont permis de pouvoir prendre 5 semaines d'affilée, ce qui n'est pas évident quand on a des dossiers à gérer. Ils m'ont soutenu. Au retour de ces 5 semaines dans le camp de réfugiés de Lesbos, en Grèce, ils m'ont permis de pouvoir expliquer ce que j'y avais compris, ce que j'avais vécu, l'intérêt de l'association sur place. Ils m'ont permis de pouvoir l'expliquer à tout le cabinet réuni, donc 150 avocats. Et ils m'ont permis également d'y retourner l'année suivante. Donc non seulement ils ont un œil très bienveillant sur cette pratique, ils s'y intéressent, ils me posent beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions d'associés de différents groupes sur ce que j'y faisais, également sur les raisons profondes non seulement de cet engagement, mais en plus sur ma vision de cette fameuse crise des migrants. Et ça alimente également une réflexion en interne au sein du cabinet sur la place du cabinet dans la cité, sur les rapports à ces enjeux sociaux et environnementaux qui est en cours.
Et il y a d'autres collaborateurs et ou associés qui t'ont rejoint sur les bandes du droit de l'immigration et du droit des étrangers.
Ouais, ça c'était un vrai plaisir pour moi et même je pense que ça faisait partie du job, c'est que autour de moi, 2-3 avocats qui pareil ne venaient pas du tout de qui n'étaient pas de formation administrative, qui n'étaient a priori assez éloignés de ce secteur du droit. Je pense notamment à une qui fait essentiellement du droit des assurances, donc on est quand même pas tout proche du droit des étrangers, qui en m'écoutant à mon retour des camps de réfugiés de Grèce ou lors des conférences que j'ai organisées, se sont intéressés au sujet, s'y sont passionnés et aujourd'hui suivent des demandeurs d'asile à la CNDA, donc ont pris des dossiers à la CNDA et accompagnent ces demandeurs d'asile. Donc elles mettent à la fois, bref, toute leur, toutes leurs compétences et également, je pense qu'elles répondent également à leur engagement, qui est un peu similaire au mien, de pouvoir un peu rendre la monnaie de sa pièce, quoi.
Et comment est-ce que tu vois tes années à venir en tant qu'avocat ?
Je le vois clairement en tant qu'avocat, puisque le métier me passionne, continue à me passionner, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter dans les prochaines années. Ce qu'aujourd'hui je questionne particulièrement, c'est justement cet équilibre personnel qui est le mien, entre mon activité principale pour des entreprises, pour des particuliers, du droit commercial, du droit pénal des affaires, et cet engagement également sur des dossiers de droit des étrangers. Ce que je vois dans les prochaines années, c'est justement le travail de cet équilibre, la manière dont ces deux facettes de ma vocation d'avocat, de ma profession d'avocat, vont continuer à s'interroger l'un l'une, probablement à se féconder l'une et l'autre également. J'aime bien, c'est un mot que j'ai utilisé au tout début de notre entretien, mais j'aime bien la notion de pont, en fait. En rentrant de Lesbos en 2017, donc mon premier séjour dans les camps de réfugiés de Lesbos, en rentrant, je me suis rapproché du barreau de Paris avec qui j'échangeais déjà sur ces sujets-là. Et on a monté, alors moi j'étais vraiment la petite main assez discrète, mais on a monté avec le barreau de Paris des permanences le vendredi après-midi porte d'Aubervilliers pour les migrants dont l'épicentre est effectivement situé du côté de la porte d'Aubervilliers depuis la fin de la bulle de la Chapelle. Le barreau de Paris, et je les ai aidés là-dessus, a fait en sorte que le bus de la solidarité stationne le vendredi après-midi, porte d'Aubervilliers, pour répondre et soit exclusivement dédié aux migrants en besoin de conseils et de visibilité sur leur parcours, qui leur manque cruellement. Donc voilà, donc à plusieurs reprises, notamment au lancement du bus, c'est vraiment présent ces derniers mois, mais au lancement du bus, je m'échappais quelques vendredis après-midi à 14h pour aller passer 3 heures dans le bus et y revenir ensuite au cabinet. Et j'étais assez surpris, étonné, interrogé par, et en même temps avec beaucoup de plaisir, par cette espèce de changement de monde auquel je procédais en une seule après-midi à Paris même, où je me retrouvais à 16h dans un bus stationné porte d'Aubervilliers à conseiller un jeune Soudanais ou un jeune Malien totalement paumé, broyé par la machine européenne, par la machine de l'asile européen, et me retrouver une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, en un coup de RER, à nouveau dans le 8e arrondissement, à travailler pour mes clients, entreprises, particuliers. Et j'aime bien cette idée de pont, j'aime bien cette capacité, et je le constate, je le vois autour de moi, hein, cette volonté à finalement rapprocher les mondes. Et je crois que j'ai une envie dans les prochaines années en tant qu'avocat, parce que je crois que le métier d'avocat s'y prête, c'est justement de rapprocher ces mondes. J'ai peut-être un œil là-dessus particulièrement focalisé. Je constate que finalement, les mondes se rapprochent. Je trouve que le monde des affaires, finalement, est de plus en plus à différents degrés, doit faire face, ce monde des affaires doit faire face à des questions de droits fondamentaux. Je trouve que les droits fondamentaux aujourd'hui deviennent. C'est peut-être, si on est pessimiste, c'est peut-être une manière de réaliser que le monde finalement devient assez violent, très dur et que les choses ne vont pas forcément dans le bon sens dans les prochaines années. Mais je constate que les droits fondamentaux interrogent même des grandes sociétés comme la BNP au Rwanda ou la Farge en Syrie. Enfin, les droits fondamentaux redeviennent quelque chose d'absolument crucial. Et j'aspire du coup, moi, personnellement, à être, dans les prochaines années, un pont entre deux mondes, entre le monde des affaires et les droits fondamentaux qui vont naturellement être absolument prégnants, je pense, dans les prochaines années.
Merci beaucoup, Maxime, pour cet entretien et bon courage pour le pont à continuer à construire.
Merci d'avoir invité.
De rien.